nous sommes réunis pour la session ultime de cette rencontre. Et d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de cette idée, de cette réunion qui est extrêmement agréable et riche. Et donc, voilà, simplement, je suis très content d'être ici à ce colloque cette année. Comme ça, c'est parfait. Et surtout, on mesure à quel point une suite, des suites sont nécessaires et auront lieu donc bien pour l'avenir. Alors, de façon complètement arbitraire et à peine raisonnée, j'ai proposé d'inverser l'ordre. Ce sera Agnès Bouvier qui va commencer, et nous terminerons par Françoise Gaillard. Il me semblait que finir par la religion du sacrifice était quand même beaucoup plus important.
Commencer à se sacrifier.
Voilà, exactement. Il y avait quelque chose de ce type-là, de ce genre-là, qui m'a fait vous demander d'inverser. Et Agnès Bouvier, donc, a fait une thèse à Paris 8 sur... sur Salambo et sur la présence de la Bible, la lecture de la Bible et de tout le domaine oriental dans Salambo. Et je dirais que Agnès Bouvier a changé, a modifié notre connaissance de Salambo de façon fondamentale, et j'insiste vraiment là-dessus, autant que Kant avec ses catégories, comme dit Proust à propos de Flaubert, par ses travaux sur la relation de Flaubert à une sorte d'épistémologie nouvelle autour de la Bible, autour du mosaïque, autour de la traduction de Caen, c'était l'objet même de votre thèse, et il y a eu de nombreux articles sur la genèse de Salambo, Moloch égale Jéhovah, égale Moloch, etc. C'est-à-dire sur ce domaine de l'antiquité orientale biblique autour de la Bible de Caen, et de très nombreux articles sur ce point, plus un chapitre dans la thèse qui devrait devenir un livre, à mon avis, sur l'équipe Flaubert. Donc, c'est-à-dire l'équipe Flaubert, c'est le titre d'un chapitre, Flaubert travaillant avec Maury, avec Renan, cette zone de travail intellectuel qui est tout à fait fondamentale, et j'espère que ça deviendra un livre. Donc Agnès Bouvier, en plus, va nous parler maintenant d'un élément très intéressant auquel j'ai fait mention très brièvement ce matin, et je voulais mentionner le travail d'Agnès là-dessus, c'est-à-dire un faux mythographique très important et qui a énormément de conséquences dans Salambo, et il est tout à fait intéressant de travailler sur ses rapports aux traditions bibliques, mythiques, mythologiques à travers le faux. Le faux ajoute quelque chose quant à la mémoire qui est tout à fait fondamental. Donc, Agnès Bouvier, le manuscrit phénicien retrouvé au Portugal, histoire d'un faux mythographique afro.
Merci beaucoup, Jacques. Je dirais également combien je suis heureuse d'être ici cette année, n'ayant pas eu la possibilité de venir l'année dernière. Et donc, voilà, je suis particulièrement contente. Alors, pour Flaubert, écrire sur Salambo, ça a été faire l'épreuve de l'étranger. Je commence par citer quatre phrases de la correspondance qui est notre Bible, hein, pour Flaubert, quoi qu'on dit. Alors la première, il faut faire une sorte de traduction permanente, et quel abîme cela creuse entre l'absolu et l'œuvre. Je sens que je suis dans le faux, comprenez-vous, et que mes personnages n'ont pas dû parler comme cela. C'est une œuvre hérissée de difficultés, donner aux gens un langage dans lequel ils n'ont pas pensé. Et puis la dernière, à chaque ligne, à chaque mot, la langue me manque, et l'insuffisance du vocabulaire est telle que je suis forcée de changer des détails très souvent. Fin des citations. Entre la langue perdue de Carthage et l'insuffisance du français, la langue manque, elle souffre, et ce qu'elle évoque peu à peu s'en trouve transformé. Je suis forcée de changer des détails très souvent. Ou, pour le dire autrement, la recherche de cette langue manquante m'amène à dire autrement le monde auquel elle appartient. À chaque mot, à chaque ligne, je réinvente Carthage depuis une langue qui lui est propre, la langue perdue et par force retrouvée. Je forge en même temps que je l'apprends, dans la douleur, une langue adhérente à mon objet, et mon objet devient l'émanation de cette langue imaginée. Si le lecteur ne la comprend pas tout à fait, peu importe. Le sens passera dans le rythme de la phrase et le public se retrouvera dans la posture des mercenaires écoutant Salambo. Donc là, je reprends le texte que nous avons lu tout à l'heure, le dernier paragraphe du premier texte que j'ai reproduit pour vous. Elle chantait tout cela dans un vieil idiome cananéen que n'entendaient pas les barbares. Ils se demandaient ce qu'elle pouvait leur dire avec les gestes effrayants dont elle accompagnait son discours. Et montait autour d'elle sur les tables, sur les lits, dans les rameaux des sycomores, la bouche ouverte et allongeant la tête, il tâchait de saisir ces vagues histoires qui se balançaient devant leur imagination à travers l'obscurité des théogonies comme des fantômes dans des nuages. Que chante-t-elle ? Les aventures de Melkart, là on revient au début du texte, dieu des Sidoniens et père de sa famille. Là je vais relire le début du texte. Elle disait « L'ascension des montagnes d'Ersiphonie, le voyage à Tartessus et la guerre contre Massisabal pour venger la reine des serpents. » Il poursuivait dans la forêt le monstre femelle dont la queue ondulait sur les feuilles mortes comme un ruisseau d'argent. Et il arriva dans une prairie où des femmes à croupe de dragon se tenaient autour d'un grand feu, dressées sur la pointe de leur queue. La lune, couleur de sang, resplendissait dans un cercle pâle et leurs langues écarlates, fendues comme des harpons de pêcheurs, s'allongeaient en se recourbant jusqu'au bord de la flamme. Puis Salammbô, sans s'arrêter, racota comment Melkart, après avoir vaincu Massisabal, mit à la proue du navire sa tête coupée. À chaque battement des flots, elle s'enfonçait sous l'écume, mais le soleil l'embaumait, elle se fit plus dure que l'or. Cependant, les yeux ne cessaient point de pleurer et les larmes continuellement tombaient dans l'eau. Elle racontera ensuite, Salammbô, les guerres de Carthage contre ses ennemis, passant du mythe à l'histoire. Et son récit mène jusqu'au temps du roman. Il attend son prolongement de la guerre qui va commencer. Ainsi, par la voix de Salammbô, Carthage se chante. Et ce chant, c'est Salammbô. Un texte écrit dans une langue que les lecteurs barbares ne comprennent pas, mais tâchent de saisir, bouche bée, portée par le rythme sacré du poème. On pourrait voir dans ce chant liminaire de Salammbô, texte phénicien, traduit par un grec, et en tout cas retraduit par Flaubert, la représentation du roman conçue comme une sorte de traduction à travers la fiction d'un texte original manquant, la langue même de ce texte ayant disparu. Rien ne reste en effet du langage dans lequel les personnages de Salammbô ont pensé, rien non plus ou si peu de la littérature sacrée de Carthage. Un seul lambeau a surnagé, ça c'est une expression de Renan. Encore ce dernier rescapé n'est-il pas exactement punique, mais phénicien. Il faut comprendre le regret et la passion qu'ont suscité chez les savants du XIXe siècle l'existence des quelques pages peut-être à peu près phéniciennes parvenues jusqu'à nous pour mesurer dans ce contexte l'apport du travail de Flaubert. Le regret du monde scientifique s'exprime sous la forme d'un paradoxe si abondamment répété, j'ai dû le lire au moins 5 ou 6 fois dans des livres différents, qui se constitue en topos de la philologie contemporaine. Je cite une phrase de Renan qui résume ça, ce topos. D'irrécusables témoignages démontrent l'existence d'une littérature à Carthage. La métropole ne fut pas sans doute plus dépourvue que la colonie. L'existence d'annales phéniciennes et d'historiens écrivant en phénicien ne saurait être niée. De ce vaste corps d'annales, tout a péri. Le peuple auquel presque toutes les nations civilisées doivent l'écriture alphabétique ne nous a pas laissé de monuments de littérature. Voilà, le peuple qui a inventé l'écriture n'a pas laissé de littérature. Enfin, ça, on s'en gargarise. Enfin, on n'en revient pas, hein, c'est une espèce d'étonnement. Alors, le seul vestige qui subsiste des origines phéniciennes perdues et dont Carthage est l'héritière acquiert par contraste, aussi douteux et fragmentaire soit-il, une importance telle qu'il devient un objet de polémique. La passion philologique allemande et française va déferler en critique, contre-critique et mise au point contradictoire sur l'authenticité et l'interprétation du texte phénicien. Salammbô s'écrit en partie au milieu des éclats de cette bataille, aujourd'hui oubliée. Alors de quoi s'agit-il ? Au commencement du IIe siècle après Jésus-Christ, un certain Philon de Byblos, originaire de Tyr, écrit en grec une histoire phénicienne qu'il prétend avoir traduite d'un texte phénicien dont l'auteur appartiendrait à la plus haute antiquité, et certains commentateurs en font même le contemporain de Moïse. Et celui-là, donc il s'appellerait Sankoniathon. Les 9 livres de l'histoire phénicienne de Sankoniathon, traduits par Philon, ont disparu. Mais quelques passages en ont été conservés sous forme de citations dans la préparation évangélique de Zèbe, évêque de Césarée, au début du IVe siècle. Ces extraits concernent la partie cosmogonique et théogonique de l'ouvrage. Quant aux parties mythologiques et historiques, il n'en reste aucune trace antique. Aucune. Alors, les fragments cosmogoniques parvenus jusqu'à nous ont excité l'intérêt des exégètes dès le XVIe siècle en raison de leur similitude et de leur différence au regard de la genèse du Pentateuque. Le débat s'exacerbe en ce milieu du XIXe siècle où la tension croissante entre les savoirs et les croyances place le texte phénicien au cœur de la critique rationnelle des antiquités bibliques. Les traductions rivales et les commentaires se multiplient. Kreutzer en Allemagne, l'abbé Migne et Séguier de Saint-Brisson en France, Ernest Le Renan lui-même donnent leur version des fragments et proposent leur opinion sur l'authenticité de ce fameux Sanconiaton et sur la fidélité de la traduction de Philon, pour autant que celui-ci n'ait pas fabriqué sa source de toute pièce. Renan fait un état des lieux de la question. Alors, donc, l'histoire phénicienne est-elle vraiment d'origine phénicienne? Et peut-on admettre l'existence d'un texte du XIIe siècle avant Jésus-Christ que l'Alexandrin Philon aurait eu sous les yeux? Alors, d'après Renan, qui fait donc l'état de la question, la nouvelle critique allemande, dans sa grande majorité, répond oui. Et donc je cite Renan, on peut dire que les critiques allemands ont essayé de montrer la grande valeur et l'origine purement phénicienne de l'ouvrage traduit par Philon, on peut dire que cette opinion est aujourd'hui l'opinion dominante en Allemagne. Pour d'autres, au contraire, le traducteur grec serait un faussaire et Sanconiaton une fable. Guignot rapporte l'avis de Gesenius, je ne sais pas comment on dit, Gesenius plutôt en allemand, hein. Bon, je le dis en un allemand qui a un nom... C'est donné un nom latin, je ne sais pas comment on dit. Moi, je dis Gesenius, vous me pardonnerez si ce n'est pas ça. Gesenius. Bon, on va faire Gesenius. Qui va dans ce sens et parle de Philon comme d'un prétendu traducteur. Alors, qui faut-il croire? Renan, lui, propose une solution médiane. Pour lui, il ne fait pas de doute qu'un auteur du nom de Sanconiaton ait existé. Il en trouve la preuve chez Athénée. Et puis, il donne d'autres arguments. La fin du raisonnement de Renan, je vous passe ces étapes, mérite quand même qu'on s'y attarde. Alors je vous cite le texte de Renan. On entrevoit sans peine dès à présent à quelle époque nous rapportons la composition de l'original phénicien traduit par Philon de Byblos. Donc, conclusion, tout cela nous reporte au 2e ou 3e siècle avant l'ère chrétienne. Tiens, c'est-à-dire à la période historique où se déroule la guerre inexpiable des mercenaires contre Carthage. L'histoire phénicienne serait contemporaine de l'histoire de Salomon. La coïncidence est merveilleuse, même si c'est évidemment une coïncidence, mais c'est merveilleux de penser que des siècles de spéculation érudite sur l'authenticité du texte phénicien aient pu aboutir à une conjonction temporelle entre la datation de ce texte par la philologie et celle de la fiction qu'il contient. Le Moïse phénicien, avec la trouvaille de Renan, est projeté dans le temps du récit de Flaubert et pourquoi pas de son narrateur. Alors on était là, sur Sanconiaton et Philon, lorsqu'un coup de tonnerre éclata sur l'Olympe universitaire européen. Un Allemand avait retrouvé l'intégralité d'une copie ancienne du texte grec de Philon, les 9 livres au complet, au fond d'un monastère portugais. Alléluia. Aussi invraisemblable que ça paraisse, le désir de ce texte était si exacerbé dans les milieux scientifiques qu'au moins au début, tout le monde y a cru. L'histoire est belle, et mérite d'être raconté en détail. Alors voilà. Nous sommes en 1835. Le jeune Friedrich Wagenfeld, que nous appellerons Frédéric, s'ennuie. Il a 25 ans et il vient d'une famille modeste de Brême. Il a fait de brillantes études à Göttingen, où il s'est particulièrement distingué en philologie auprès de son maître Gesenius. Le savant qui s'occupe de restituer le lexique phénicien à partir des récentes découvertes archéologiques. Mais comme Frédéric n'a pas suffisamment de protection pour faire carrière et qu'il faut bien manger, il s'est résigné à devenir précepteur. Cela fait maintenant 3 ans qu'il perd son temps et son talent auprès des enfants du comte Hoya. Alors il décide de s'amuser un peu et de se rappeler au souvenir de ses bons maîtres. Dans les tavernes de Brême, avec ses amis, il met au point un énorme canular. Il va fabriquer un manuscrit phénico-grec, si parfaitement imité que Gesenius lui-même s'y laissera prendre. Il doit avoir en tête, comme tout helléniste digne de ce nom, le fameux tour que Denis d'Héraclée avait joué à Héraclite Dupont, dit le Pontique. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, il avait fabriqué une fausse tragédie de Sophocle, la Parthénopée, qui avait complètement trompé celui qu'on appelait aussi le Pompeux. Denis révéla alors la vérité en montrant à Héraclide un passage de la pseudo-tragédie qui contenait l'acrostiche suivant « Héraclide ne sait pas ses lettres ». Alors, Frédéric, lui, sait que l'entreprise sera plus difficile dans les temps modernes où il vit, puisque jamais les critiques n'ont eu autant d'outils à leur disposition que dans l'Allemagne des années 1830. Qu'à cela ne tienne. Après tout, il est l'un des leurs. Il a été parfaitement formé à la détection des dates et des attributions. Il lui suffira de retourner ses savoirs en direction de la fiction qu'il veut construire. La qualité des fraudes littéraires, on le sait, épouse exactement celle des progrès de la critique textuelle. Les moments où l'on dénonce le plus de sources frauduleuses sont ceux où l'on en produit le plus. Dans The Closing of Clio, Stephen Bann relie étroitement l'avènement de l'histoire-science au XVIIIe et au XIXe siècle avec la profusion de forgeries qui l'accompagnent, au nombre desquelles d'ailleurs il compte Salambo. Avant de se livrer au pastiche oriental, Frédéric commence par élaborer un véritable roman épistolaire. La première lettre est envoyée le 18 octobre 1835 à un célèbre historien, George Heinrich Pertz. Wagenfeld prétend l'avoir reçue d'un certain João Pereiro, qui dit avoir découvert dans un coffre dissimulé dans un placard de la cellule d'un couvent de Santa Maria de Merinao, ça n'existe pas, hein, la copie complète de la traduction de Sanconiaton par Philon de Biblos. Frédéric accompagne l'envoi de la première lettre portugaise, j'ai pas pu résister, d'une note dans laquelle il explique que, ayant longtemps fréquenté le neveu de ce Pereiro à Brême, c'est pour cela que tout naturellement l'oncle s'est adressé à lui, sachant qu'il avait fait ses études à Göttingen, etc., etc. Bon. Frédéric doit avoir été convaincant, car l'annonce de la découverte paraît le 30 octobre dans le Zeitung de Hanovre. Entre-temps, une deuxième lettre de Pereiro arrive, disant qu'il veut bien lui expédier l'intégralité du manuscrit, à condition que celui-ci ne soit publié que sous forme d'extrait, en gros, il ne devait pas avoir encore eu le temps de tout rédiger, hein, pour ne pas affecter son éventuelle valeur commerciale. Pereiro ajoute que le coffre magique contient 13 autres manuscrits anciens. On voit que Frédéric avait en réserve de nombreuses attaques du même genre que celles qu'il préparait. On peut rêver d'ailleurs à toutes celles qu'on voudra. La lettre est communiquée cette fois à la maison d'édition vénérable des frères Anne à Hanovre avec une proposition éditoriale, le commentaire, le résumé et la présentation d'extraits, cette formule hybride qui porte aussi le nom d'analyse du manuscrit, avec la promesse du texte complet un an plus tard et surtout la promesse d'une préface rédigée par une sommité d'université, Grotefend. C'est là où le génie de Frédéric éclate. L'analyse est si vraisemblable que le vénérable orientaliste Grotefend lui rédige une préface de 50 pages où, sans se préoccuper des questions d'authenticité, il adhère si parfaitement au texte factice qu'il en déduit toute une proto-histoire des Phéniciens, avec établissement de sources, généalogie droit, avènements et chutes de villes, somptueux tableaux comparatifs auxquels il ne manque évidemment que d'être vrai. Pris d'une véritable frénésie phénicienne, Grotefend déclare que la cosmogonie de Sanconiaton est d'une qualité littéraire infiniment supérieure à la Genèse biblique. Et avec la dévotion du lettré que l'aridité des savoirs n'a pas éloigné des délectations poétiques, il accueille au panthéon des grandes épopées de l'humanité le périple de Mélicerte, c'est-à-dire Melkarth, autrefois gravé sur l'un des piliers du temple du dieu Tyrien, dont le roi Joram avait fait faire 4 copies et que Sanconiaton a recopié sur le pilier brisé par un tremblement de terre. Alors, tout ici est faux. Hein, à l'exception du nom de Dieu, donc cette histoire de Reine des Serpents, je vous ai donné en deux hein, un large extrait de l'analyse, avec toute l'histoire de Mélicerte, tout le périple de Mélicerte qui contient l'épopée de la Reine des Serpents et de Massisaba. Alors tout ça est évidemment faux, la source de la source, le texte, la traduction, les péripéties, la lutte de Mélicerte contre Massisaba pour délivrer la Reine des Serpents, tout intégralement fait et non, sauf Melkarth qui fait partie de la tradition, épisode, texte, paratexte. Tout vient de la seule imagination de Frédéric. On peut deviner son sentiment lorsqu'il s'est vu comparé par Grotefend à Homère ou Ovide. En mieux même, en plus antique, en plus primitif, en plus oriental. Mais le véritable trophée de Frédéric, celui qui constitue probablement son but véritable, c'est la lettre qu'il reçoit de Gesenius aussitôt après la publication de l'analyse en avril 36. Le professeur de Göttingen, donc son ancien professeur, l'assure d'être convaincu de l'authenticité de sa découverte. En effet, il dit avoir été frappé de la similitude des noms phéniciens présents dans le texte avec certains noms hébreux, lui-même ayant mis au point une méthode de déchiffrement du phénicien à partir d'études comparées des langues sémitiques, méthode qui venait d'être publiée en 1835, et qu'évidemment, Frédéric n'a eu aucun mal à mettre en œuvre, mais à rebours. On peut d'ailleurs se demander si la publication du grand œuvre de Gézénius n'a pas été à l'origine de l'idée du canular, et comme une réponse à l'éternelle incantation sur l'air du peuple qui a inventé l'écriture, n'a jamais laissé aucune littérature. À peine quelques mois plus tard, à la fin de 1836, comme souvent la réaction en France a été presque immédiate, l'analyse est traduite de l'allemand en français. Ça a été tout de suite, par Philippe Lebas, qui dans sa préface pose la question, donc ça je vous ai transcrit une partie de la préface de Lebas en page 3. Que doit-on penser de cette publication ? Faut-il la regarder comme une mystification ou comme un document sérieux ? Ah, c'est que déjà, ça commençait à s'éventer. Les choses n'étaient déjà plus aussi simples en octobre 36 qu'en avril. C'est allé très vite. Le soupçon de fraude circulait déjà en Allemagne. Certes, alors, le nom de Hahn et surtout celui de Grotefend, si l'on n'en a pas abusé, ne permettent guère de voir dans cette brochure l'œuvre d'un faussaire. Alors, j'adore cette phrase qui suit. Vous allez... saisir la saveur, nos amis allemands. L'Allemagne n'est pas la terre classique de ces sortes de supercheries dont l'Italie a donné de si funestes exemples. La bonne foi, disons plus, la candeur germanique n'admet guère un pareil soupçon. Voilà. En gros, ils sont trop naïfs pour faire des fraudes. Ils ont une honnêteté trop. Bon. Pour pouvoir se livrer à ce genre de choses. On invente difficilement l'histoire complète d'un peuple tel que les Phéniciens, car à chaque fois on est exposé à se trahir. Or, il faut en convenir, dans l'analyse de Saint Cognaton, la simplicité, la vérité de la narration, ses coïncidences avec la Bible, la multiplicité des détails, etc., tout semble annoncer une composition originale. Le seul argument négatif qui ait quelque force, c'est l'absence de tout renseignement précis sur le manuscrit et sur le lieu où il a été trouvé. Nous savons par l'Athénéum du 23 juillet dernier que le savant Gézénius, le plus célèbre de tous les hébraïsants de l'Allemagne, Gézénius qui nous promet l'explication prochaine, etc., s'est prononcé en faveur de l'authenticité de la découverte faite par M. Wagenfeld. D'un autre côté, s'il faut en croire l'article de l'Athénéum, M. Grotefend a... postérieurement sans doute à la publication de sa préface, fait insérer dans les journaux allemands la note suivante sur le livre de M. Wagenfeld. Donc Grotefend, il avait déjà retourné sa veste, il s'était aperçu qu'il avait été berné, et donc voilà ce que Lebas peut transcrire quelques mois après. Donc cette lettre, pour prévenir l'intention où l'on pourrait être de traduire cet ouvrage dans d'autres langues, trop tard, il était déjà traduit en français, je crois qu'il est de mon devoir de déclarer publiquement et sans perdre de temps que d'après les documents recueillis jusqu'ici, je suis moralement convaincu que l'extrait de son cognaton est qu'une ingénieuse fiction. Alors, Lebas dit, dans cet état de choses, il nous a paru utile que le public français eût sous les yeux les pièces du procès. Oui, c'était effectivement utile, tant était grande la confusion à ce moment-là. Donc, on voit que le livre de Lebas, qui est l'une des grandes sources de Flaubert pour Salammbô, est écrit dans une espèce d'effervescence. C'est quasiment en temps réel l'histoire de cette supercherie qui se fait, qui se défait. Donc, très vite, le procès dont parle Lebas se transforme en curé. Et la fraude est unanimement dénoncée. En effet, ceux qui avaient pu se laisser tromper par la virtuosité de la soi-disant traduction allemande ont matière à exercer une critique philologique beaucoup plus serrée à partir du moment où Frédéric, poussant jusqu'au bout la bravade, fait publier chez Hahn la totalité du texte grec qu'il avait fabriqué lui-même, avec alors en plus une traduction latine en regard et un beau titre latin en couverture, il fait quatre lignes quoi. La BNF possède un exemplaire de cet étrange objet horriblement rébarbatif et totalement fantaisiste. En 1837, le dernier mot revient à Otfried Müller qui dans le journal de Göttingen prouve la fraude de manière définitive et cependant assez amicale à l'égard du faussaire. Müller finit par avouer son admiration à l'égard du jeune homme qui a réussi, en dépit des quelques erreurs formelles qui l'ont dénoncé, à produire un texte si proche de l'esprit des anciens, où la fable et les faits se mêlent de manière si subtile et inextricable que l'Antiquité s'en est véritablement trouvée ressuscitée. Müller conclut en lui souhaitant paternellement de faire servir désormais ses remarquables qualités d'helléniste et d'orientaliste à l'accomplissement d'une brillante carrière universitaire. Vœu pieux qui ne se réalisera pas. La haine de ceux qui l'a berné lui ferme à jamais les portes de l'université, c'est fini pour lui, il sombre. Là, c'est beaucoup moins drôle, dans l'alcool et le désespoir. Là, c'est une retombée, une chute totale. En 1845, 10 ans après, à 35 ans, Frédéric est déjà un vieillard qui publie in extremis un recueil de légendes de Brême, sa ville natale, où se mêlent curieusement, comme dans sa fulgurante mystification phénicienne, l'histoire et l'invention. Et puis enfin, l'année suivante, un dernier volume sur les expéditions guerrières des habitants de Brême. Il s'est donc replié sur le territoire familier de son enfance et il meurt très vite en 1846. Fin de l'histoire. Frédéric avait peut-être rêvé le destin d'un Macpherson. Les chants d'Ossian, on sait, ont valu à leur créateur non seulement la célébrité, mais aussi une série de postes importants et de pensions qui firent de ce jeune homme pauvre, réduit à d'aléatoires travaux de plume, un membre de l'establishment social et littéraire. Mais c'est le destin de Chatterton qui l'attendait. Chatterton qui croyait que grâce à ses poèmes, ses récits et ses dessins imaginaires sur l'ancien Bristol, pourrait imaginer qu'il pourrait publier et accéder à l'ascension sociale avant d'avouer son échec et de se suicider. Il a comme un parfum de drame 1830 dans ces figures de jeunes génies dévorés par leur savoir. Celle de Frédéric Wagensfeld, quand on finit par la dégager de l'amoncellement des sources qui écrasent Salammbô, fait résonner, je pense, autrement, le texte de Flaubert où le narrateur reprend, pour la faire énoncer par Salammbô, l'épopée de Mélicerte, Melcarte et de la Reine des Serpents. Alors c'est vrai que je sais bien qu'après tout, je l'ai dit moi aussi, qu'après tout on peut dire qu'on s'en moque que la source soit vraie ou fausse, qu'après tout aucun mythe n'est ni vrai ni faux, au sens de la vérité scientifique, et que Flaubert, à l'instar des grands compilateurs de l'Antiquité, englobe dans sa prose égalisatrice la disparité des sources unifiées par le dire humain, ce qui a été dit n'étant ni vrai ni faux, mais ayant le même degré d'existence que ce qui a été. Mais tout de même, on ne peut plus ne pas y penser, après, à ce potage dont l'œuvre paradoxale, toute négative, discréditée en son temps, continue aujourd'hui d'ailleurs de tendre son piège magnifique à beaucoup de commentateurs, éditeurs et annotateurs de Salammbô, lesquels parlent avec un bel ensemble naïf et pressé de la tradition phénicienne ou de la légende phénicienne. Je vous ai donné un tout petit exemple d'un très beau texte magnifique, une analyse absolument superbe, paru dans un classique de la critique de Salammbô, Salammbô Histoire Fiction, l'article de Sonia Damscroft sur la portée du paraître. Vous voyez, deuxième paragraphe, finalement, je voudrais démontrer comment la mise en abîme dans Salammbô d'une légende phénicienne sous-tend l'action qui engage Shahabarim, etc. Donc tout ça est parfaitement démontré. Et puis, il y a une petite note, mais finalement, on fait comme si il s'agissait d'une légende phénicienne retravaillée par Flaubert, et puis voilà. On appelle même Friedrich Wagensfeld Fritz. Alors ça, je crois.
C'est l'ami ?
Non, je crois que c'est le premier qui a parlé, qui a fait vraiment de manière, je l'appelle naïve et pressée, son beau petit parallèle avec deux colonnes. Dans une première colonne, il y avait le texte de ce qui s'appelle le pseudo sans cognata. Donc Wagensfeld, ces petites histoires. Dans la deuxième colonne, le texte de Flaubert, et puis on voit les différences que Flaubert a retranchées, enlevées, enfin confortablement, une petite critique comme on a l'habitude d'en faire, sauf qu'évidemment, ce n'est pas du travail sur le mythe. Oui, mais quand même, non.
Non.
Après, quand ces choses qu'on croit voir une fois qu'on est détrompé, on ne peut plus jamais les revoir de la même manière. Cette légende d'où serait issue la reine des serpents, Massisaba, etc., oui, on la chercherait en vain, mais encore faut-il chercher dans les dictionnaires mythologiques. Leiteaya et Massisabal sont des noms parfaitement inventés par Wagensfeld, qui même leur donnent des fausses étymologies. Alors ça, c'est à mourir de rire quand même. Si vous regardez à la page 2, alors Wagensfeld qui va, mais vraiment, je vous les ai mis en italique pour que ça se voit davantage, page 2. Alors, Léiatana, c'est la reine des serpents. Alors pourquoi Léiatana? Note, une belle note. En hébreu, Liratan, recourbé, sinueux, donc Léviathan, hein, expression employée en parlant des monstres d'une grande dimension, notamment des crocodiles et des serpents. Voilà, qui donne l'étymologie, sans faiblir, de son nom. Et puis, même chose pour Massisabal, qui n'existe pas davantage que l'Itaïa, hein. Massisabal, ou le trait Massa de Baal. Hein. Alors, c'est comme le Zaïmph de Flaubert, comme le Gérimadette de Hugo, c'est-à-dire que ce sont des créations, de pures créations linguistiques, et en l'occurrence, tout ce texte, toute une création narrative, d'un homme, hein, Frédéric Wagenfeld, qui a fait ici pleinement œuvre de poète, pseudo-ancien, mais complètement moderne. La profondeur, donc, où il faut aller chercher la source de Flaubert pour ce passage, n'est pas temporelle. Ce n'est pas la profondeur des siècles. C'est celle de la rêverie d'un jeune homme facétieux, génial et désespéré, d'une figure érudite et fantasque, archétypalement romantique. Voilà.
Question. Rétablissez les vérités. Pierre-Marc.
Oui, bah, c'est une question de vérité. Mais moi, je reste absolument convaincu qu'il n'y a pas, de notre point de vue de lecteur, vraiment de différence. Et si je compare par exemple à la Genèse de Saint-Julien, le père a décidé très volontairement de prendre de préférence aux légendes médiévales, la réécriture par l'Angloire romantique, hein, qui est complètement inventée aussi, de faux.
Non, on est d'accord, tout est inventé, c'est pas la question,
donc je crois que c'est. Il y a une volonté de fiction à échelle supérieure qui marche très bien avec l'humour aussi, l'écriture qui est dans ces textes, non?
Ah oui, là c'est vraiment l'idée du canular qui est là, du texte mis pour.
Est-ce que Frédéric l'a vu ça?
Mais Frédéric, il ne voyait rien.
Non, c'est ça.
Et c'est
Pourtant, c'était plus que visible.
Ah oui, c'est plus que visible, mais plus d'un s'y est laissé prendre. Et encore aujourd'hui.
Pas dans les recherches. Sur l'histoire de la Phénicie, quand même, si.
Non.
Il y a des archéologues qui continuent
pas
se faire avoir. Non, peut-être pas.
Peut-être pas, mais en tout cas, des littéraires, oui, beaucoup. Quand on va vite et quand on...
En outre, Flaubert cite dans ses notes, pris de pseudo-Aconatin, etc. C'est-à-dire que Flaubert l'indique comme des sources.
C'est ça, parce que donc, quand on ne veut pas voir la source...
Donc c'est une source.
Donc c'est une source, voilà.
Mais c'est une source artificielle, mais c'est une source. C'est très étrange. Ouais. Bon, ce qui est intéressant, c'est le rapport justement entre la création artificielle d'une cosmogonie phénicienne et la reconstruction d'un Carthage disparu, dont on ne sait pas grand-chose.
Ouais, c'est ça.
Et ça, c'est tout à fait intéressant. Autre question, Dagmar.
C'est pas vraiment
Alors, il faudrait aller voir le texte allemand pour voir si c'est beau. En français, la traduction est un peu plate. Hein. Mais je ne sais pas si c'est ce que ça donne en allemand.
Cela dit, est-ce que les travaux archéologiques sur cette sphère se servent malgré tout de ce faux? Il faudrait voir dans le contemporain. J'ai pas vu, moi j'ai lu pas mal de choses sur l'archéologie phénicienne, etc. On ne le cite plus. Mais on pourrait le citer comme une espèce de contre-épreuve, de miroir, comme ça, de miroir intellectuel du 19e siècle. C'est intéressant. Autre question.
C'est
C'est tout simplement une remarque. Alors, on a bien discuté la traduction ce matin, et donc on voit la traduction véritable, mais aussi Faucici et Cespontus qui est le traducteur.
Oui, bien sûr. Qui est le fausseur
hein, du texte. Oui, oui. Donc, ça va de soi que. Entre les sources véritables et les sources fausses, oui. Il faut un traducteur.
Et il y a dans Bouvard et Pécuchet, il y a Hervieux, il y a Louis Hervieux, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, cette idée de donner comme vraie des références fausses va se développer. Et en effet, du coup, le livre d'Hervieux est une sorte d'hyper critique positiviste, enfin rationnelle. Donc il y a une passion pour ce genre de la vérité du faux.
C'est ça, et un désir d'être trompé aussi, vraiment un appel. On se dit, mais c'est pas possible que des gens aient pu se laisser tromper par cette histoire de couvent en Portugal, enfin, alors que c'est tellement éculé, mais même comme scénario. Il y a une espèce de tel désir, de telle attente de ce texte. Que,
Françoise,
j'ai une petite chose. La première chose sans importance sur les destins différents de ce pauvre Frédéric.
C'est triste quand même.
L'auberge rouge, tu sais, où l'allemand l'appelle Frédéric, par commodité, et la personne, c'est que dans les champs de Sion, c'était une épopée, enfin, c'était un choc héroïque à la gloire finalement de l'origine des peuples. Des angles, etc. Donc, il est normal qu'on se demandait su gré. Tandis que là, évidemment, les Phéniciens sont pas particulièrement, enfin, les Allemands ne sont pas particulièrement concernés par les Phéniciens. Mais l'autre chose plus importante, c'est qu'au fond, à la même époque, que font les archéologues? Ils inventent. Ils inventent complètement, d'ailleurs, en grande partie, ils continuent à le faire. On va, au cours du XIXe siècle, inventer Troie, comme on invente Carthage, comme on invente, etc. Donc, à la limite, pourquoi pas inventer non plus une histoire, un récit. L'archéologie est surtout une grande créativité et une grande invention poétique du XIXe siècle, très largement. Donc, ma foi.
Tu veux dire que c'est comme le palais de Minos en Crète?
Oui, exactement. C'est deux. De reconstruction, d'invention.
Ou comme Carcassonne.
Ça, c'est l'invention de Viollet-le-Duc.
L'invention de Viollet-le-Duc.
Ça, c'est l'invention de Viollet-le-Duc, Carcassonne. Mais là, je parle de l'archéologie dans le bassin méditerranéen. Hein. Oui. C'est une grande invention.
Ah, mais.
C'était juste un prolongement de ce que tu disais, sur Bouvard et Pécuchet, c'est que. La fiction érudite hein, qui s'inaugure avec peut-être avec Bouvard et Pécuchet neutralise cette opposition entre réalité et fiction au plan de la fiction et le descendant c'est Borges parce que
Borges ou Pérec avec la tomate.
C'est une neutralisation, c'est-à-dire que dans la sphère de Bouvard et Pécuchet c'est effectivement, le vrai et le faux se neutralisent au profit du bien trouvé. Hein. C'est bien trouvé.
Oui, et ça se réalise de d'emblée.
Il y a une fiction autoréalisante.
Oui, bien mal.
Et en fait, c'est une tradition qui aussi a pris naissance au XVIe siècle. Assez. Qui avait beaucoup. L'incertitude entre les faux. Mais question, est-ce que Flaubert savait quelque chose de la vie du jeune homme en question?
Il a lu le texte dans la version de Lebas et donc il y a 100 pages d'établissement de questions. La vie, non, probablement.
Non, ça va pas tragique, ça n'est pas
le courant. Non, je crois pas.
Lebas développe l'idée que c'est un fou ou pas?
Il commence par dire voilà un texte tant attendu, etc. Et puis, au fur et à mesure de sa rédaction, il doit recevoir des nouvelles un petit peu alarmantes. Et donc, il fait état des contradictions. corruption, des soupçons de fraude. Et c'est pour ça qu'on a un objet quand même là très 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 étrange, un objet éditorial extrêmement bizarre, hein, une traduction qui est défendue, et d'un autre côté, avec un état de la question, c'est voilà.
Pas d'autre question. Tu diras que la vérité du faux, c'est la beauté du diable. Françoise ?